Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, le veau d'or, deuxième partie.
Ce matin, et vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avions commencé une page sur un sujet qui est toujours un sujet d'actualité, c'est-à-dire l'idolâtrie. Alors on va revenir donc à ces textes, parce qu'il y en avait deux. Le premier, je vous le propose dans l'Évangile de Jean, c'est le texte de référence, c'est une leçon, c'est le principe, nous pourrions dire, que Jésus nous donne. Alors, donc, dans Jean, Évangile de Jean, chapitre 4, verset 21. Et nous allons reprendre le cours de notre réflexion. Alors, j'ai dit Jean, chapitre 4, verset 21. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Alors que Dieu nous bénisse dans ce principe posé par Jésus. Et puis maintenant, nous allons voir dans un autre passage, Exode, chapitre 32, et nous allons poursuivre. Exode, chapitre 32, verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Alors Aaron vit cela. Il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà, bien que Dieu nous bénisse à travers cette réflexion que nous poursuivons. Et nous nous sommes arrêtés sur cette affirmation que je reprends maintenant. Le péché d'idolâtrie corrompt l'homme. Le verset que nous avons lu est celui-ci. Aaron bâtit un autel et il s'écria, « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'est sur ce verset-là que nous allons concentrer notre réflexion. La fête en l'honneur de Dieu, de ce Dieu qui est saint, nous le savons, c'est la déclaration formelle de l'Écriture, va dégénérer en orgie et en débauche. Et là, en guise de sacrifice, on n'hésite pas à sacrifier tout bonnement la décence et l'honneur. Je le rappelle, quelque temps auparavant, Dieu avait formulé expressément dans les 10 commandements, notamment les 2 premiers, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc, les Israélites le savaient. Ils étaient informés de ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, on s'aperçoit qu'au regard de notre récit, il n'y a plus de différence entre les fêtes païennes et celles que l'on baptise, celles que les Israélites ont baptisées « culte à l'Éternel ». Ils ont tout simplement modifié l'ordre des choses et ils ont collé une simple étiquette sur une idole et voici que le profane devient tout à coup sacré. Ça, c'est un enchantement. C'est quelque chose qui nous interpelle. Et on s'aperçoit que chez les Israélites, on peut le deviner, sous cette couverture « culte à l'Éternel », eh bien, la conscience va s'en trouver libérée en quelque sorte. Si Moïse avait été là, il ne l'aurait pas fait. Mais on sait que Moïse est encore sur la montagne. Et puis, il y a quand même encore une autorité qui se trouve au milieu du peuple, c'est Aaron. Mais la semaine passée, nous avons parlé de l'extrême faiblesse morale et surtout spirituelle du grand sacrificateur, premier grand sacrificateur de l'histoire d'Israël. Lui, il ne peut rien arrêter. Au contraire, il va même prêter son concours à l'idolâtrie du peuple de Dieu. Maintenant, si nous rapprochons les choses, permettez-moi de dire ceci. Que de fêtes dites religieuses qui débutent dans la plus grande solennité par des messes, des grandes messes, des célébrations, enfin tout ce que vous voudrez, et qui ont donné par la suite, au cours de l'avancement de la journée, qui ont été le prétexte facile à, pardonnez-moi, à des beuveries, à des banquets qui finissent mal, à des histoires douteuses que l'on raconte ou que l'on se raconte, à des querelles. C'est quand même assez surprenant. Nous avons saisi un type même de dégradation ou de dérive, mais c'était hier. Mais permettez-moi de le dire que ça peut être encore aujourd'hui, à l'occasion de mariages qui commencent par les solennités, à l'occasion de baptêmes, pas les nôtres, à l'occasion de toutes sortes de choses comme cela. Y a-t-il que les enterrements ? Qui échappe, mais heureusement d'ailleurs. Un des fruits pourris de l'idolâtrie, c'est le défoulement et l'immoralité. On le voit. Vous rappelez ce que vous savez déjà, c'est que dans les banquets pagano-religieux de l'Antiquité, il était très fréquent d'y voir des femmes prêtres prostituées qui entraînaient tout simplement l'assemblée à la débauche collective. Ça, c'était des choses qui appartenaient à ce temps-là. Et on peut dire que c'est la vraie nature du péché d'idolâtrie. C'est un fantasme religieux qui dégénère en dépravation. Lorsque nous lisons, par exemple, ce que Paul nous laisse dans Romains chapitre 1er, et vous le relirez, je ne peux pas faire la lecture ce matin, mais à partir du verset 24 jusqu'au verset 27, vous verrez que, comme l'homme a adoré la créature au lieu du Créateur, la déviation est là. Nous disons qu'ils se sont livrés à des choses contre nature, contre, finalement, eux-mêmes, au vu aussi de naturellement de tous, qu'il y a eu là une dégénérescence du comportement, jusqu'au crime, jusqu'à la haine, jusqu'à toutes sortes de choses. Et peut-être certains ont pensé que Paul était probablement dans un mauvais jour et qu'il faisait de la dépression ce jour-là. Mais quand vous considérez que ces quelques versets que vous avez devant nous, vous verrez ce que l'homme est capable en associant le religieux avec le paganisme, et que ça dégénère très 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 vite. Et à l'origine, c'est que c'est un problème de fausse adoration, où les hommes sont abusés en pensant que, eh bien, le culte qui est rendu à Dieu, c'est un culte qui honore Dieu, alors que il y a là les preuves patentes, eh bien, d'une dégradation complète et totale. Ce qui fait qu'au petit matin, lorsque les gens se réveillent en disant « Mais comment ai-je pu faire ça ?» Avec l'alcool aidant, avec l'euphorie, une certaine ivresse de ceci et cela. Voilà ce que Paul nous montre. C'est pour ça qu'il pourra dire « Moi, je n'ai pas honte de l'Évangile parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » Et pour nous maintenir aussi dans la dignité, dans la décence. L'idolâtre ne peut accepter d'adorer, nous l'avons vu, que ce qu'il voit. C'est-à-dire, il est incapable de pouvoir s'approcher, de concevoir même l'invisibilité du vrai Dieu. Il ne peut aucunement faire confiance, parce que cette confiance-là s'appelle la foi. Et la foi, c'est croire dans l'invisible. C'est croire ce qu'on ne voit pas. Et tout cela lui échappe naturellement à ses sens. Il lui faut du palpable et du sensuel. Il lui faut, eh bien, quelque chose qui soit, eh bien, là, concret, en quelque sorte. Mais ce peut être aussi un sensuel intellectuel qui passe par le raisonnement. L'apôtre Paul a été confronté à Athènes à ce genre de dérive, et nous pouvons l'ajouter de ce sensuel intellectuel qui fait fantasmer, mais qui est aussi une forme d'idolâtrie. D'ailleurs, quand il pénètre dans cette ville, ô combien une grande ville de l'Antiquité, capitale de bien des choses, eh bien, nous nous apercevons qu'il est irrité à l'intérieur de lui-même, son esprit est irrité, en voyant une foule remplie d'idoles. Et derrière cette idolâtrie matérielle, il y a aussi cette idolâtrie intellectuelle à travers les philosophes, philosophies qui nous sont présentées. Je dirais qu'aujourd'hui, plus que jamais, où le monde vit avec l'émotion, et on exploite l'émotion, on la pousse finalement au maximum, nous nous apercevons que le veau d'or reste solidement debout, quoi qu'on en pense. On est prêt, comme les Israélites hier, à se dépouiller, à tout offrir pour que l'idole prenne forme et qu'elle marche devant nous. Je reprends le texte. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or et apportez-les-moi, au verset 24, que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et me le donnent. Ou le verset 24 plus précisément, parce qu'il vient après la lecture que nous avons faite, il est dit ceci, voulant se justifier, Aaron dira, que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné. Lui, il l'a reçu. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti un veau. Point d'interrogation. Il en est sorti un veau. Il n'est pas très honnête, notre Aaron. Parce que c'est quand même lui qui a donné l'idée, quelque part. Voulant contenir les murmures et puis cette folie qui commençait à se répandre dans le camp. Mais c'est quand même lui qui a pris l'or, c'est quand même lui qui l'a jeté, qui a fait fondre cet or, et puis il dira tout simplement, eh bien, il en est sorti un veau. Comme ça. Alors voilà qui arrange bien la conscience, et c'est une belle excuse pour minimiser le péché spirituel de l'idolâtrie. Et nous allons arriver justement au caractère spirituel de l'idolâtrie. Il n'est pas seulement, comme nous l'avons vu la fois dernière, matériel, un veau qui marche, enfin qui ne marche pas, mais enfin que l'on fait marcher. Mais ça va beaucoup plus loin parce que c'est au niveau de l'esprit de l'homme. Vous vous souvenez de ce que nous avons lu il y a un instant? Que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et je dirais que ce péché spirituel de l'idolâtrie est le plus subtil de tous. Alors comme par enchantement dans notre récit, on fournit la matière première, les choses précieuses, et il en ressort un veau d'or. Ça, c'est quand même extraordinaire. Étonnant. Et je dirais que, pour le moins, l'homme est aussi extraordinaire d'imagination pour faire ce qui est mal et ensuite dire qu'il n'y est pour rien. C'est le cas d'Aaron. C'est le cas des Israélites qui diront, ben voilà, eh bien, maintenant, nous allons pouvoir faire la fête parce que nous avons un Dieu que nous voyons. On dirait que c'est magique. Et je ferai une relation entre l'idolâtrie et le magique. Et nous le verrons tout à l'heure, le pas est vite franchi entre l'idolâtrie, le magique, l'occultisme qui nous mettent en relation, non pas avec Dieu, mais avec un autre monde. À en croire Aaron et tous ceux qui sont autour de lui, le veau d'or s'est fait tout seul. Eh oui, tout seul. Alors, en parlant d'or et d'argent, peut-être que c'est intéressant de le prendre en considération, il y a une autre forme d'idolâtrie qui corrompt la vie des hommes et dont les chrétiens sont prévenus de se tenir en garde. Vous vous souvenez que nous avons cité un verset en premier temps la semaine passée, c'est que Jésus nous dit « On ne peut servir deux maîtres à la fois. » Et il parlera de Dieu, du vrai Dieu, et de Mammon. Vous voyez à quoi je veux parvenir maintenant. L'argent, le faux Dieu, l'idole moderne. Et je voudrais quand même faire un petit détour sur un passage qui nous est laissé par l'apôtre Paul dans Timothée, tout simplement. Vous connaissez probablement ce texte, mais est-il bon ce matin que nous le reprenions, que nous le relisions ensemble ? 1 Timothée chapitre 6, verset 9, jusqu'à la fin du paragraphe. « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Oh. Approprié à notre réflexion ce matin, tout ça va bien ensemble. Eh oui, l'idole. L'idole d'aujourd'hui, dont on parle tant. On vit avec les cours de la bourse, hein. C'est toutes les heures. Le monde palpite, le monde vit avec ça. Voici un mal qui s'appelle... tantôt cupidité, avarice, folie des grandeurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler du veau d'or ? Il est encore en place, hein ? Et il est bien en place, il est bien installé. C'est l'amour ou l'affection immodérée de l'argent. Ce mal-là est capable des pires choses. Et oui, l'histoire nous l'a montré, nous le savons. Il achète tout, même ce qui ne se vend pas, c'est-à-dire la conscience, le cœur, l'âme, l'esprit des hommes. C'est un faux Dieu imposteur, car il donne, écoutez bien le mot qui suit, il donne l'illusion à ceux qui croient en lui qu'il sécurise, qu'il rassure, qu'il est... la clé pour le bonheur, pour procurer de la joie, pour procurer eh bien, ce que l'homme aspire au plus profond de lui-même, mais ce n'est qu'une illusion derrière tous ses atours, alors qu'il n'y a pas plus menteur que lui. Le veau d'or ne parlait pas, bien entendu. L'argent a quelque chose qui fait fantasmer les gens. Quand on regarde les jeux du hasard, quand on voit un petit peu tout ce qui peut tourner autour de cela, on dit, mais le monde entier est captivé par cette affaire de l'argent, de l'or. La ruée vers l'or du 19e siècle, dans ce pays d'Amérique, a laissé tellement de gens sur le bas-côté de la route. Ils partaient par milliers, traversant des étendues infinies. Et beaucoup sont sont morts sans avoir vu une pépite. Et aujourd'hui, c'est la même ruée qui se produit. Ah, on ne va pas à l'ouest, mais on va là où on pense qu'il y a dans nos ruisseaux, eh bien, de l'or, hein, des paillettes d'or. Eh oui, mais vous savez, si bien que moi, je le redis, un proverbe juste qui dit que tout ce qui brille n'est pas d'or, naturellement. Vous savez que l'argent est la chose qui nous appartient le moins. J'avais quelques euros dans mon porte-monnaie hier, je ne les ai plus aujourd'hui, parce que je les ai dépensés. Je ne peux pas dire c'est mon argent. Vous êtes au courant de ça, non? Ouais, ça va, ça vient, ça passe. Qu'est-ce que ça sent bon. Eh oui, c'est la chose qui nous appartient le moins. Il glisse entre nos doigts comme l'eau sous le robinet. Et vous savez que essayer de retenir de l'eau, hein, c'est quelque chose d'impossible. Alors, j'ajouterais ceci, que si nous le possédons, va encore. Mais s'il arrive à nous posséder, eh bien il rend fou. Oui, je crois qu'il faut le dire de cette manière, il rend fou. C'est l'idole, cette idole-là prend la place qui revient à Dieu. Parce qu'on a parlé de sécurité, on a parlé de confiance. Et c'est un transfert, c'est une dérive, c'est quelque chose qui doit revenir au Seigneur, notre vie. Elle n'est pas faite uniquement de ce que nous allons manger, de ce quoi nous serons vêtus, mais elle est faite, finalement, de ce que Dieu nous a donné la vie. Et la vie vaut plus que le vêtement, le corps vaut plus que la nourriture, ce sont des grands classiques du sermon sur la montagne. Mais comment peut-on tomber dans l'illusion que finalement, parce que nous avons de l'or et de l'argent, eh bien nous sommes en parfaite sécurité. Il n'y a qu'une sécurité que nous connaissons, nous les enfants de Dieu. C'est vraiment lorsque nous remettons notre vie, nous l'abandonnons entre les mains de Dieu, et nous pouvons être assurés du reste, et de tout. De tout, naturellement. Parce que je crois que cette idole-là, Mammon, vole la confiance et la foi que nous devons au Seigneur. Seigneur, je n'ai rien, mais je me confie en toi. Hein? Alors, je sais, par expérience, que le Seigneur est capable de me donner ce que je n'ai pas. Et ça, c'est formidable et c'est merveilleux. C'est ce qu'on appelle des expériences de foi, tout simplement. Alors, c'est un péché. C'est un péché de voler à Dieu. Parce qu'on lui vole les choses. Il a été question également dans notre récit que le peuple d'Israël s'est levé pour manger et se divertir. Alors le verbe divertir, c'est un euphémisme, parce que ça va beaucoup plus loin qu'un simple divertissement innocent. C'est comme dans les plaines de Moab, quand Israël a été vaincu par ce fameux magicien Balaam, par la séduction. Vous relirez ça dans le livre des Nombres, c'était une catastrophe, parce qu'il y a eu un fléau terrible. Alors, il s'est levé pour manger et boire et se divertir. Nous allons arriver à une autre idole, dont nous parlons tout autant que l'argent, parce que nous sommes dans un pays de profusion alimentaire, c'est vrai, hein. On en a tellement, c'est qu'on le jette sur le bas-côté des routes. On détruit, on met le feu, on fait toutes sortes de choses. C'est terrible, hein, quand on regarde que peut-être à côté, il y a aussi beaucoup de gens qui sont sous-alimentés. Donc, nous vivons dans une société de profusion alimentaire et la tentation, finalement, s'offre de s'abandonner aisément à une certaine insouciance de consommer, de boire, de manger, d'acheter, plus que de raison et de besoin. C'est la période des soldes, hein, vous avez remarqué, il y a de bonnes affaires à faire. On voit très souvent que dans les magasins, il y a pour un prix abordable, très intéressant, voilà, on vous offre deux costumes à la place d'un. Moi, j'en mets qu'un qu'à la fois. Je ne peux pas en mettre deux parce que je suis déjà assez opulent. Oui. Alors, c'est ça, on consomme. C'est une consommation, naturellement. Et je pense que ça devient... Et là, il y a un mal qui est derrière. C'est ce qu'on appelle la consommation, les achats compulsifs. Vous savez que c'est un vrai problème dans notre société. beaucoup de gens vont voir le médecin spécialisé pour cela, hein, un psychologue, en disant, mais voilà, je ne peux pas, lorsque je passe devant un magasin, je suis obligé de rentrer et j'achète. Et des choses qui nous ont été révélées par les médias, où les gens disent, mais voilà, j'ai acheté ceci, mais je ne l'ai jamais mis. Parce que c'est comme s'il y avait comme un contentement, comme une satisfaction, comme quelque chose qui était satisfait à l'intérieur, mais... Et par-delà tout cela, ce n'est pas le problème d'acheter. Si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Et souvent, eh bien, il n'y a pas d'argent. Et ça entraîne des conséquences sur la personne, sur l'entourage des personnes. C'est un mal compulsif. L'idole de la gloutonnerie. Pourrait-on parler de cela, puisque la Bible nous informe et nous conseille d'être sobre, sobre en tout temps. Tout nous appartient. Le monde est à vous, dira Paul. Hein, la vie est à vous. Mais c'est vrai. Nous avons cette liberté chrétienne de pouvoir jouir et de bénir le Seigneur. Mais est-ce que pour autant, eh bien, nous nous donnons, nous pouvons faire tout ce que... Et ça devient justement de la gloutonnerie. Gloutonnerie, ivrognerie, qui réclame sur son autel le sacrifice permanent de dizaines de milliers de victimes. Celle-ci, je fais ce rapprochement, celle-ci de maladies cardiovasculaires, ou toutes sortes de choses, celle-là de cancer, ou d'autres cirrhotiques. Eh oui, le monde est malade, mais il est malade non pas de manquer, mais il est malade de son contraire. Et ça, c'est un véritable problème. On le voit et ça apparaît déjà dans notre société, l'obésité. C'est terrible, parce que les gens se rendent malades. D'une manière ou d'une autre, je ne suis pas en train de juger. Je constate. C'est une constatation de fait, tout simplement. Et sur cet autel-là, eh bien, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de victimes. Il est mort parce qu'il a trop mangé, il est mort parce qu'il a trop bu, il est mort parce qu'il a fait trop ceci, cela. Et oui, bien sûr. Parce que ce que cette idole demande, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la qualité de vie, ce n'est pas la pleine vie, ce n'est pas la satisfaction de vivre. Mais c'est la mort. Une mort impitoyable, sous des allures de plaisir, sous des allures de satisfaction et de bien vivre. Et ça, c'est terrible. Parce que visiblement, ça ne fait pas de mal, en apparence. Mais le mal est quand même là. Le mal est là. Il faut faire des différences, naturellement, entre manger, entre la gourmandise, entre la gloutonnerie, et puis la boulimie. Il y a là comme un crescendo. La Bible est claire sur le compte de l'idole appelée boire et manger. Et elle est stigmatisée par Jésus en ces termes quand il dit, quand il parle des temps qui viennent du retour de Jésus, c'est-à-dire cette doctrine qu'on appelle l'eschatologie. Et il dira bien Jésus pour prévenir le peuple de Dieu, il dira, mais prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du boire et du manger. Dans le psaume 69, je lis ceci, que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Dans 1 Corinthiens est-il ajouté, sachez-le, les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. On va tous passer par une cure d'amaigrissement. Vous voulez bien ? Ouais ? Pourquoi pas ? Non, mais quelquefois on se fait du mal. Hein. Et on le sait qu'on se fait du mal. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Dans une société où tout est incitation à consommer, à acheter, à dépenser, à gaspiller, faisons bien attention, comme Jésus nous le rappelle, à ce que l'habitude et l'entraînement ne deviennent manie, drogue ou dopage. Eh oui. Parce que l'habitude est une seconde nature. Et quelquefois, pour calmer nos angoisses ou nos détresses ou nos inquiétudes. Alors on recourt à tous ces substituts illusoires et on se dit, bien voilà, je vais faire ceci et cela. Je vais essayer de combler le vide. Je vais essayer de calmer la tempête à l'intérieur de moi-même. Combien nous avons vu, combien nous avons eu d'hommes, particulièrement peut-être les femmes, qui pleuraient devant ce problème, c'est un problème, c'est dramatique, de la boulimie. Ne pouvons pas résister devant la porte du frigidaire ou de la réserve alimentaire et de dire, eh bien voilà, et de les voir pleurer. C'est une délivrance dont ils ont besoin, au même titre que la boisson, au même titre que bien d'autres choses. Parce que c'est terrible. Mais moi, je crois que Dieu est capable aussi, eh bien, de nous libérer, parce qu'il est venu en libérateur pour les maux de tous les temps, et les maux de notre temps, et les maux de notre société, les maux d'aujourd'hui. Et le Seigneur n'est pas indifférent. Et je ne parle pas seulement des gens qui sont à l'extérieur, je parle aussi des enfants de Dieu, qui sont malheureux. Et nous pouvons prier et demander à Dieu que, vraiment, eh bien, il se passe quelque chose. Et fort heureusement, nous avons vu des délivrances. Nous avons vu des êtres qui appartiennent au Seigneur eh bien, se relever et arriver à, soit par une délivrance définitive, ou arriver à maîtriser le problème et de dire, eh bien, qu'est-ce que je vis autrement, qu'est-ce que je vis mieux depuis que il n'y a plus cette chaîne, ce lien dans ma vie. Cette idole consommation trône en maître dans nos grands temples modernes du même nom. Ouais. Enfin, l'idolâtrie est une abomination parce qu'elle mène directement au péché de l'esprit qu'est l'occultisme. Je dis bien l'occultisme. Et ça, c'est terrible. Comment les créatures de Dieu peuvent rentrer en contact avec le monde de l'invisible, le monde pernicieux, le monde infernal, tout en pensant qu'ils rendent un culte à Dieu? Là, c'est un subterfuge de première. C'est une tromperie comme celle qui est arrivée dans le jardin d'Éden. D'avoir ces écailles sur les yeux et de dire, eh bien moi, j'adore Dieu alors que ce n'est pas Dieu qu'ils adorent. L'adversaire a toujours cherché à rivaliser avec Dieu et lui voler l'adoration. Lui voler sa créature. Parce que nous sommes faits pour adorer. Nous sommes voués à adorer et nous adorerons dans l'éternité. Alors comment cela peut-il se produire? Alors cette idole, qui est une abomination, elle mène donc à l'occultisme. Le verset 6. Ils offrirent un veau d'or, des holocaustes et des actions de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans un culte. Pas ce matin. Oui, ce matin, mais dans le texte. C'est un culte. C'est une fête. Adorer et servir de faux dieux sans le savoir ou sans vouloir le savoir. Mes frères et sœurs, il y a une chose qui est très importante et l'apôtre Jean, je l'ai dit la fois passée, nous le recommande. Il dit ceci dans des termes pleins d'affection. Petits enfants, fuyez l'idolâtrie. Alors si je dis cela et si j'ai été conduit à dire cela, c'est que les idoles peuvent être aussi bien dissimulées, mais quelquefois dans le cœur de certains et de certaines, et sans le savoir. Et ce qui nous permet de savoir et de connaître et de comprendre et ensuite de pouvoir nous en dégager, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Forcément. Il n'y a pas d'autre chose. Adorer, servir de faux dieux. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons y jeter un regard d'ici quelques instants. Paul évoque l'incompatibilité absolue entre notre culte dû au Seigneur et la funeste méprise qu'engendre l'adoration des idoles, quand bien même celle-ci est dédiée à celui qu'on croit être Dieu. Et là, c'est quand même un coup de maître fameux. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Jésus précisera à la Samaritaine et à tous ceux qui ressemblent à la Samaritaine, parce qu'ils sont dans l'ignorance, ils ont été pendant des siècles et des siècles dans l'obscurantisme, il dira, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et aujourd'hui, il faut le proclamer par l'Évangile, que des millions et des millions, voire des milliards d'âmes, chrétienté ou au-delà, adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Et pourtant, je dirais que ces milliards de personnes sont sincères. Mais sincérité ne veut pas dire vérité. Et c'est là le problème. Parce que la stratégie de l'ennemi a toujours été la même, c'est tromper. Tromper l'homme. Est-ce que vraiment nous aspirons pour que Dieu envoie sur le peuple de Dieu, sur les hommes, l'esprit de vérité et l'amour de la vérité? C'est comme ça qu'ils échapperont et que Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens, je ne sais plus quel chapitre, mais vous le retrouverez aisément, où il dit ceci, qu'ils sont livrés à l'égarement, Dieu les a livrés à l'égarement, c'est une parole terrible, hein, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Alors Seigneur, envoie-nous l'amour de la vérité et mets en nous l'esprit de vérité. Alors on échappera. On pourra échapper à cela. Alors nous allons voir ce fameux texte de Paul dans 1 Corinthiens, parce qu'il est intéressant et il rejoint ce que nous allons vivre d'ici quelques instants, c'est-à-dire le repas de Sainte-Cène. Culte. C'est le partage et c'est le mémorial de ce que Jésus a accompli pour nous, pour que nous soyons complètement et totalement, définitivement délivrés de toutes ces choses qui sont impures. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 14 à 22, je prendrai soin de le lire complètement. « C'est pourquoi, mes bien-aimés, dira Paul, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, excusez-moi, nous participons tous au même pain, voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ça, c'est un texte d'une grande importance. La colère de Dieu, dans Exode chapitre 32, nous le verrons plus tard, il y a toute une étude que j'ai faite autour de toute cette question du veau d'or. Mais nous apercevons, vous pourrez le relire dans la semaine à partir du verset 7 et puis jusqu'à la fin, nous apercevons que la colère de Dieu éclate contre les Israélites à la suite de ce veau d'or. Ils sont là prosternés au pied donc de cette idole qui, sans le savoir, eh bien cette idole les met en contact avec les puissances occultes de séduction. L'apôtre Paul sanctionne la chose en disant « Vous ne pouvez être en contact, en relation, en communion avec Dieu et avec les démons. » Et ils ne le savent pas. Ils sont devenus fous. Ils adorent la créature au lieu du Créateur. Et vous vous imaginez, quand on reprend Romains chapitre 1er et les versets que j'ai cités tout à l'heure, la dégradation, l'indignité, l'impureté, les impudicités, l'occultisme, tout ce que cela peut entraîner dans son sillage. Pour Dieu, ce n'est ni plus ni moins qu'une trahison. qui est appelé adultère spirituel. Adultère spirituel. L'analogie est établie par la liberté que prenaient les chrétiens de Corinthe. Ah oui, à Corinthe, c'était une ville où il se passait beaucoup de choses. Hein. Paul est obligé d'écrire. Il y reviendra une fois par une première lettre. Il y reviendra une deuxième fois parce qu'il se passe des choses étonnantes. Et pourtant, ils ont les dons. Ils ont la vie du Saint-Esprit. Ils ont beaucoup de choses reçues. Hein. Ils connaissent, ils ont la connaissance. Ouais, mais il leur manque une dimension. C'est qu'il y a encore des choses qui, au fond de leur cœur, qui, quelque part, eh bien, ne peuvent pas plaire à Dieu. Alors, on s'aperçoit que le lien est fait par la liberté donc, que prenaient les chrétiens de Corinthe qui, sous le couvert, que l'idole n'était que le produit de l'imagination. Ah, ce n'est rien. Ils rentraient dans les temples d'idoles, et à Corinthe, il y en avait des temples. Il y avait là toute une... un échantillonnage de Dieu que l'on pouvait imaginer. Alors il se disait, mais nous on est chrétiens, on appartient au Seigneur, mais on peut quand même aller au temple. On peut quand même aller acheter, parce que c'est comme ça, il y avait tellement de sacrifices, la viande était vendue. Mais elle avait été sacrifiée à des idoles. Et derrière l'idole, il y avait tout le culte, de culte au culte, naturellement. Et ils mangeaient en disant, moi, bonne conscience. Alors ils en arrivaient à dire, oh, de toute façon ça n'a pas d'importance tout ça, puisque nous appartenons au Seigneur. Attendez. Si pour eux, ça ne leur faisait rien, ceux qui les voyaient faire, parmi les autres enfants de Dieu, ça les scandalisait. Et c'est là où nous en arrivons peut-être, à ce que la liberté chrétienne, c'est une grâce merveilleuse que Dieu nous a donnée, mais moi je suis libre pour moi-même et je n'ai pas le droit de scandaliser là, de toucher la conscience des autres. Parce que je fais ou ce que je ne fais pas, la manière dont je vis. Non. C'est ça, la question. Alors, il se disait, tout ça... Nous pouvons tout faire, mais ils faisaient encore d'autres choses qui étaient... Est-ce que ça les amenait justement, eh bien, comme dans les plaines de, hein, du désert, là, avec le veau d'or, hein, à dévier, mais alors carrément, hein. Ils partaient en live, hein, totalement. Et ils se permettaient de prendre part, hein, je dis bien, de prendre part aux sacrifices païens dans les temples d'idoles de Corinthe, ce que Paul, finalement, dénonce comme communion. Non avec Dieu, mais avec des puissances occultes, donc avec des démons. Parce que le but du diable, c'est justement de nous attirer dans ce piège-là, et de dire, non, moi j'appartiens au Seigneur. Je suis toujours en communion avec le Seigneur. Mais c'est bien de dire, je suis toujours en communion avec le Seigneur, mais est-ce que le Seigneur est en communion avec nous? La question doit être posée aussi dans le sens inverse. Dernière chose, je ferai cette analogie avec le repas de Sainte-Seine qui nous introduit en esprit et en vérité dans le sacrifice rédempteur de Christ. Ce qui signifie qu'on ne peut à la fois partager la communion avec le Seigneur et celle des puissances diaboliques du mal, lesquelles, à cause même de la nature déchue de l'homme, c'est-à-dire notre nature à nous-mêmes, sans être emporté à se laisser séduire et obéir au mensonge. Le mensonge que nous voulons bien nous donner, que nous voulons bien nous octroyer nous-mêmes. Le mensonge auquel nous accordons plus de crédit que la vérité de Dieu exprimée par sa parole. Si Dieu l'a dit, c'est qu'il veut nous montrer quelque chose et il veut nous préserver. Et nous nous apercevons que cela nous éloigne toujours davantage de Dieu en nous laissant l'illusion qu'on l'adore, alors qu'on ne l'adore pas du tout. Il en est du culte des morts, excusez-moi, je dois le dire, qui est une fausse doctrine, qui ne met pas en relation avec les personnes défuntes bien-aimées, et qui nous met en relation avec le monde de l'occulte. On appelle ça de la nécromancie. Et admirablement orchestré par le monde de la religion. L'invocation de ceci et cela, je n'en dirai pas plus. Alors, pour échapper au piège de l'idolâtrie, Dieu nous a donné ce commandement que vous connaissez, Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, le sentiment sanctifié, de toute ton âme, avec cette ferveur sanctifiée, de toute ta force, avec cette volonté sanctifiée, de toute ta pensée, avec une intelligence, avec l'intelligence sanctifiée. Et vous remarquerez que dans cette adoration en esprit, en vérité, que Jésus dévoile, et sur laquelle il invite les hommes et les femmes à entrer, il n'est ni question des yeux, il n'est pas question du toucher, il n'est pas question des sensations, des impressions, mais c'est à une autre dimension. Vous adorerez en esprit et en vérité. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Je crois que le monde a besoin de l'enseignement de l'Évangile. Que les enfants de Dieu ont besoin aussi de la parole que le Seigneur nous a laissée pour ne pas reproduire cette catastrophe, cette tragédie qui s'est passée il y a très très longtemps dans les plaines du désert où un peuple entier a été conduit, orchestré par le grand prêtre qui s'appelait Aaron, qui avait complètement perdu finalement la notion des choses, entraîner le peuple dans l'idolâtrie et par voie de conséquence avec tout ce qui s'est passé ensuite. Et il leur faudra que Israël, pendant des siècles et des siècles, traîne dans les couloirs et les labyrinthes de l'idolâtrie, mais il faudra qu'il soit à nouveau déporté très longtemps après à Babylone pendant 70 ans pour tirer un trait définitif sur l'adoration des idoles. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce.